du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes géniaux, nous les humains, nous sommes capables du meilleur comme du pire. Alors en ces temps où quelques individus créent la peur dans nos villes, nous avons choisi de vous, de nous remonter le moral. Avec tous ceux, ils sont des millions qui innovent pour métamorphoser leurs conditions de vie. Dans tous les domaines, l'agriculture, l'énergie, la citoyenneté et même la finance. Et ce qui est génial, c'est que leurs inventions sont transposables au monde entier.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Et avec nous dans ce magnifique studio 1 de RFI, quatre invités que je vous présente tout de suite. Isabelle Lefort, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes de l'association Positive Planète qui vient de publier l'Atlas de la planète positive aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous avez recensé plus de 1000 initiatives sur toute la planète.
Absolument, dans 10 domaines, en fait, en essayant de cartographier cette planète en 10 domaines, de l'agriculture, effectivement, à la finance, la santé, l'énergie, l'économie circulaire, pardon, etc. Donc, on a essayé de partir dans cette aventure qui est absolument incroyable.
Alors, à vos côtés, Bénédicte Magnier, bonjour.
Bonjour.
Nous vous avions reçu déjà dans C'est pas du vent pour votre précédent livre, 1 million de révolutions tranquilles, et cette fois vous récidivez, mais en vous focalisant sur l'Inde, hein, que vous parcourez depuis plus de 20 ans, et vous publiez Made in India, le laboratoire écologique de la planète, aux éditions Premier Parallèle. Parce que comme vous l'écrivez, pour le pire ou le meilleur, l'Inde incarne ce que la planète sera demain, alors visitons le meilleur.
Oui, on a souvent l'image de l'Inde comme un pays très pollué, presque aussi pollué que la Chine d'ailleurs, mais la grande différence avec la Chine, c'est qu'il y a aussi la société civile, certainement la plus libre au monde, pour opposer des résistances aux projets polluants et surtout pour opposer des alternatives. Donc on a un concentré extraordinaire d'initiatives de la société civile. Alors je me suis focalisée sur l'écologie, mais il y en a bien d'autres.
Deux messieurs aussi dans ce studio, on a commencé par les dames. Jean-François Julliard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Greenpeace France et vous avez écrit Les Veilleurs du Ciel, publié chez Don Quichotte, avec cette idée qu'il ne faut pas tout attendre des réunions internationales, notamment de la COP21, là, cette fameuse réunion sur le climat qui va débuter bientôt dans une semaine maintenant à Paris. Vous partez aussi du principe qu'il faut tenir compte et miser sur les initiatives citoyennes.
Oui, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on essaie de sauver la planète et de nous sauver du dérèglement climatique à travers ces COP qui ont lieu tous les ans, ces conférences mondiales sur le climat, et 20 ans qu'on échoue, et 20 ans, je trouve, qu'on ne regarde pas assez ce qui se fait dans la vraie vie, dans l'économie réelle, sur le terrain, avec tout un tas d'initiatives dont on va parler au cours de cette émission. Mais pour moi, l'issue vient bien plus aujourd'hui des gens qui s'engagent sur le terrain que de ces grands masses onusiennes.
Alors Jean-Luc Vinger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en innovation sociale et auteur d'un livre que j'ai trouvé extrêmement brillant, je le pense, alors
merci.
Je le dis, ça s'appelle Le syndrome de Marie-Antoine. C'est publié, tiens vous aussi, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors expliquez-nous ce syndrome.
Alors le syndrome de Marie-Antoinette symbolise la déconnexion des élites et du peuple. Hein, c'est Marie-Antoinette qui a été convoquée à la fois parce que il y a l'idée révolutionnaire un petit peu derrière, c'est l'imaginaire de la Révolution française, et là il s'agirait de faire une révolution pour en sortir, et parce que c'est un problème assez récurrent qui a entre le peuple et les élites, et là en ce moment il est particulièrement aigu. On est dans une crise de civilisation, là juste avant je disais que ça fait 20 ans qu'on essaye de ça fait quand même un certain nombre de décennies que des problèmes sont identifiés et qu'ils se règlent pas réellement, que ce soit le chômage, que ce soit... Et là, on a eu une petite accélération ces dernières années, surtout depuis la crise de 2008. Et je crois que tout le monde a compris qu'il allait falloir que le peuple se mette un peu au travail pour faire pression sur les élites pour que ça change vraiment.
Alors en s'asseyant autour de cette table, je vous ai dit, on va faire une émission positive, on en a besoin en ce moment. Vous recensez tous ces initiatives, c'est votre démarche. En même temps, vous m'avez dit, c'est pas facile, hein, et c'est vrai, Bénédicte Magnier, en ce moment, dans les rues de Paris, nous sommes un peu plombés. Maintenant, de nombreuses autres villes dans le monde sont touchées, hein, par exemple, à l'heure où nous enregistrons, il y a une prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire partager votre ressenti?
Oui, je trouve que tout ça, c'est à l'image de ce monde très ambigu où on vit, où on a à la fois les pires catastrophes mondiales, les pires mobilisations négatives hein, les pires atteintes à la démocratie. Et en même temps, on a dans le monde entier la génération la plus informée, la plus connectée, la plus motivée, la plus agissante, qui a envie que cette planète aille mieux. Et on voit partout des initiatives qui nous redonnent confiance dans la démocratie, et notamment la démocratie locale, la démocratie participative. Il y a des initiatives de transformation de territoire qui marchent drôlement bien, encore une fois, dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans la santé, dans plein de choses. Bon, on est là sur le fil du rasoir, on sent que la planète peut basculer d'un côté ou l'autre, ou alors peut-être que les deux modèles, positifs et négatifs, vont continuer à cohabiter longtemps. Le tout, c'est de faire masse critique pour que le positif gagne du terrain.
Isabelle Lefort.
Écoutez, moi j'habite rue de Charonne, donc à 100 mètres de la Belle Équipe. J'étais à 17h ce jour-là à la Belle Équipe, donc oui, on a tous été...
Cette brasserie sur laquelle...
Il y a eu 19 morts. Et donc on a tous été dans un état de sidération, de choc, depuis maintenant une semaine. Mais... quand on arrive à reprendre un tout petit peu de recul, ces événements, effectivement, nous obligent et nous poussent à aller encore plus loin dans nos démarches, parce que il y a une nécessité absolue. Effectivement, peut-être que le mal et le bien ne pourront que cohabiter sur le long terme. Effectivement, il faut vraiment pousser et soutenir ces initiatives. Bénédicte a raison. On n'a jamais vu autant, en tout cas, on n'a pas connaissance à ce point d'initiatives qui partent dans tous les domaines, dans tous les pays, avec une véritable volonté de s'en sortir et de ne pas attendre du haut, mais véritablement de prendre le pouvoir. Et les gens prennent le pouvoir, maintenant à nous de les soutenir par toutes nos initiatives, etc., pour faire masse critique et vraiment être influent.
Jean-François Julliard, j'imagine qu'en tant que directeur de Greenpeace, c'est le genre de propos qui vous... séduisent.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que passer ce traumatisme, passer ce choc, il ne faut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. C'est arrivé, il faut en tirer tout un tas de conséquences, mais il faut aller de l'avant. Et moi, je suis assez, je vis à Paris aussi, et je suis assez réconforté malgré tout par le fait que Paris ne s'est pas arrêté. Paris s'est arrêté le temps d'un week-end, c'est vrai, parce que tout le monde a été absolument choqué par ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi. Mais dès le début de la semaine, voilà, les gens ont un peu de mal à repartir au boulot le lundi matin, mais la vie s'est remise en marche. Je veux dire, les terrasses des cafés sont pleines à Paris, les gens continuent d'aller au restaurant, continuent d'aller au cinéma, continuent d'aller au théâtre, etc. Donc c'est assez réconfortant de voir que malgré le choc, la vie ne s'arrête pas et une ville comme Paris ne s'arrête pas.
Jean-Luc Vinger.
Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, c'est les quartiers que je connais bien, que je fréquente assez souvent, et donc c'est assez traumatisant de voir que ça s'est passé tout près de chez nous. Et c'est vrai que vous remarquez qu'il y a des attentats un peu partout dans le monde, donc ça crée une ambiance un peu particulière quand on est proche. Et finalement, le vivre ensemble, moi, c'est quelque chose auquel je me suis attelé dans ce livre, et je me disais que la question centrale, c'est comment s'opposer sans se massacrer. C'est-à-dire, c'est Marcel Mauss, l'anthropologue, qui a posé cette question dans les années 20. Elle est plus pertinente que jamais, cette question, au lendemain de tels événements. Et effectivement, il y a des pistes pour aller de l'avant, donc c'est réconfortant, je suis d'accord.
Alors on va en parler de ces pistes, ça va nous faire du bien et on se remonte le moral, puisque c'est l'objectif de cette émission, tout d'abord avec Curtis Mayfield.
R. Je disais que... F. Il fait trop chaud ici. I.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr. Just move on up.
there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only skin, so keep on.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous parlons des innovations citoyennes qui sont en train de changer le monde avec nos invités. Isabelle Lefort, donc plus de 1000 initiatives recensées sur toute la planète. Quelles sont les parties du monde, les continents, les pays les plus dynamiques ?
Tous. Il n'y a pas un pays ou un continent qui serait plus dynamique que les autres. C'était d'ailleurs l'objectif, hein, quand on a commencé ce projet qui est un peu fou, de se dire, tiens, on va essayer de déterminer ou de cartographier ce qu'est la planète petite, puisque tous autour de cette table, on en entend toujours parler, on essaye. Bénédicte avait fait un très bon livre, effectivement, initiant, en fait, montrant une partie de ces initiatives. Et en fait, quand on a commencé à chercher, on en a découvert absolument partout. Donc, avec nos capacités d'information, ce livre appelle une prochaine édition et encore d'autres éditions pour pouvoir démontrer que cette planète augmente. Mais que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, alors l'Inde est particulièrement, effectivement, un pays très très fort de par cette démocratie qui fait toute la différence avec la Chine, qui est extrêmement active. Mais vous allez en Amérique du Sud, vous allez au nord de l'Europe, en Océanie, etc. Les initiatives naissent absolument partout.
Et est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus inventifs que d'autres ?
Alors, si on prend l'économie circulaire, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont développées récemment autour de ces sujets, mais dans l'éducation, dans la santé, il y a des choses absolument formidables qui sont en train de naître. La santé demain ne sera plus du tout la même, à la fois pour ces projets, ces progrès technologiques, mais aussi par la prise de conscience et la prise en main par les individus de la santé, ça c'est essentiel. Vous avez des initiatives formidables aussi qui poussent à révolutionner le domaine de la finance, donc ça c'est extrêmement intéressant.
Par exemple,
vous avez cette banque en Thaïlande qui protège les buffles d'eau, et donc au lieu d'investir dans un plan d'épargne X, vous financez des buffles qui permettent de permettre à des paysans de reprendre une activité, etc., etc. Vous avez aux États-Unis. Brad Kutsuyama qui a développé un système pour ralentir le trading haute fréquence, etc., etc. Il y a des initiatives absolument partout.
Alors Bénédicte Magnier, vous vous êtes focalisée sur l'Inde. Hein. L'Inde, c'est donc 1,25 milliard d'habitants, quatrième émetteur de gaz à effet de serre, en plein boom économique, avec les deux tiers de la population qui a moins de 35 ans. Et la créativité est immense, et là aussi, c'est dans tous les domaines.
Dans tous les domaines, de la même façon, on voit des systèmes. Alors d'abord, l'Inde, c'est un pays où depuis longtemps on est habitué à se prendre en charge. La société civile fait parce qu'elle sait que l'État ne fera pas. Et l'Inde a un nombre aujourd'hui d'ONG qui est le record mondial, plus de 3 millions d'ONG. Bon, ça explique l'histoire des choses. Mais on voit aussi, par exemple, on parlait de la santé, l'Inde invente des systèmes tout à fait inédits qui sont en train d'être reproduits ailleurs sur la planète, comme par exemple des systèmes de soins citoyens. Qui expérimente ce qu'on appelle la société du care, c'est-à-dire chacun est patient, mais chacun peut devenir aussi soignant ou aidant. Donc on a des systèmes de citoyens qui vont assister chez eux les patients en fin de vie. 100 000, c'est quand même à une échelle et c'est extraordinaire.
Ouais, excellent, c'est tout de suite, voilà, tout de suite toujours, des échelles incroyables.
Toujours des gros chiffres, 100 000 volontaires qui forment un réseau citoyen de soins palliatifs à domicile. Ou bien 5 000 volontaires qui sont souvent des femmes d'ailleurs, c'est intéressant, qui vont détecter des maladies primaires, font des soins primaires. Dans les villages, détecter la tension, l'anémie, etc., au moyen de tablettes connectées. Ça, c'est important. Les technologies viennent au secours, viennent aider ces initiatives citoyennes. Il y en a plein comme ça en Inde.
Et dans le domaine de l'environnement, évidemment, la préservation de l'environnement, il y en a beaucoup.
Il y en a énormément. Il y a des territoires, c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça montre, les Indiens mettent en œuvre une écologie concrète, pratique, qui donne des résultats. On a des territoires qui étaient absolument dévastés par des projets industriels ou dévastés par la désertification. Par exemple, on sait qu'il y a un très gros problème de manque d'eau en Inde. Et ces territoires, moi je les ai visités, ils sont aujourd'hui de véritables oasis parce que, par des moyens simples d'ailleurs, on a mis en place une politique systématique de recueil de l'eau de pluie. La mousson est très courte, 2 mois et demi, mais ça donne des réserves d'eau qui durent 2 ans, par exemple. Bon. Et ces territoires sont devenus des territoires agricoles d'une prospérité exemplaire. Ils ont planté des arbres et aujourd'hui, je me suis fait la réflexion quand je suis allée dans l'un d'eux, on se croirait en Normandie, tellement sévère, en Normandie, en plein Rajasthan. Voilà.
Alors, la Normandie, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est vraiment la région où il pleut beaucoup en France, mais qui est très verte. Et en effet, quand on parle de Normandie en France, on pense tout de suite grand champ vert. Alors Jean-François Julliard, dans votre livre, vous écrivez que ce sont les citoyens qui portent en eux les solutions pour lutter contre les changements climatiques, avec sous-entendu beaucoup plus surtout que les négociations internationales.
Oui, en tout cas, je crois qu'il faut essayer, qu'il faut donner leur chance à ces citoyens qui se sont mis en marche sans attendre que nos dirigeants politiques trouvent les solutions ou nous apportent des solutions clés en main. Je le disais, ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de lutter contre le dérèglement climatique à travers une seule voie qui est celle de ces COP, de ces fameuses conférences mondiales sur le climat qui ont lieu chaque année, parce qu'on parle beaucoup de celle de Paris parce qu'elle est à Paris, parce qu'elle a une ambition plus importante que les autres, mais il y en a tous les ans. Et donc tous les ans qu'on échoue. Ça fait plus de 20 ans qu'on aurait dû prendre des mesures dont on parle toujours aujourd'hui, des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des mesures de décarbonisation de nos sociétés, des mesures de déploiement massif des énergies renouvelables, et tout ça, on ne parvient pas à prendre ces décisions parce que c'est compliqué, parce que la mécanique onusienne fait que c'est extrêmement compliqué de se mettre d'accord à 195 États sur la planète qui ont des intérêts divergents, qui ont des sociétés différentes, qui ont des priorités différentes, qui ont souvent aussi des visions très court-termistes qui reposent sur en fait la fin du mandat des dirigeants politiques, alors que les questions climatiques elles se règlent à très long terme. Et donc on manque de cette vision à long terme, et du coup ce cadre des Nations Unies n'est pas le bon. Clairement aujourd'hui n'est pas le bon pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui encourager ce mouvement pour le climat qui est fait de beaucoup d'initiatives partout sur la planète. On vient d'en parler, on vient d'en citer quelques-unes dans le domaine notamment de la transition énergétique, et que si on donne un vrai coup d'accélérateur, un vrai coup de boost à ces initiatives, eh bien ça va avoir un impact réellement sur la planète. On parle de beaucoup d'initiatives qui sont locales. Moi aussi j'ai été en Inde pour visiter des villages qui se sont tournés vers les énergies renouvelables. Un village en Inde qui se tourne vers les énergies renouvelables, notamment avec les panneaux solaires, ça n'a pas d'impact sur la planète en termes de réduction des gaz à effet de serre. En revanche, si ce sont des dizaines de milliers de villages qui se connectent grâce aux énergies renouvelables et qui abandonnent le pétrole et le charbon, là ça commence à avoir un impact.
Donc, c'est ce qui est en train de se passer.
Exactement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que la mise en système de ces initiatives encore trop isolées, encore trop locales, bien ça, pour moi, c'est la véritable solution au dérèglement climatique.
Jean-Luc Vingère, on arrive à la fin de la première partie de l'émission, donc très rapidement, on y reviendra juste après le flash d'info, mais tout ça, c'est de l'intelligence collective, c'est ce qui nous manque finalement.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives au niveau local, on a des élites qui, comment dire, sont très préoccupées par leur problématique de pouvoir à eux, à elles, c'est pour ces élites, et finalement, oublient un peu souvent, on va dire, l'intérêt général, et si elles avaient une attitude beaucoup plus constructive, et bien justement, elle ferait remonter toutes ces initiatives pour essayer de trouver des solutions plus pertinentes, plutôt que d'essayer de faire descendre leurs idées qui sont bien souvent un petit peu moisies, pour prendre une expression pas très amicale.
D'où l'idée de remettre les citoyens au cœur de la vie politique. On va laisser un petit peu de suspense, parce que là, c'est la fin de la première.
Radicalement au cœur.
Voilà. Voilà. Vous nous expliquerez comment, juste après le flash d'info. On se retrouve donc dans quelques minutes. À tout de suite.